Ecclésiavité. En matière de défense de la vie, notamment sur la question de l'avortement, tout travail d'information est souvent partagé entre deux options. Inviter à l'émerveillement devant un mystère qui nous dépasse, ou alors démontrer la part de souffrance qu'entraîne inévitablement une atteinte à la vie. Mais tenir les deux de façon conjointe, dans une même démonstration, est un exercice qui a rarement été pratiqué. Pourtant, ce qui pourrait paraître à certains égards une difficulté a été surmonté dans un DVD diffusé à partir de l'année dernière, au début de l'été 2005. Ce dernier décrit la conception, la croissance d'une personne et présente en parallèle, pour chacune des grandes étapes de son développement in utero, les incidences d'une intervention contraire à la vie. Il s'avère alors que le bébé n'est plus la seule victime, mais que sa disparition a des répercussions sur ses proches, sa mère, son père, ses frères et sœurs, et par extension, toute sa famille élargie. La vie de l'enfant n'est donc plus le seul enjeu de la lutte contre l'avortement, car force est de constater que porter atteinte à la vie, c'est en définitive porter atteinte à l'homme avec un grand H et à ce qui le constitue tout simplement. C'est toute la démonstration de ce 58 minutes construit sur un argumentaire scientifique couplé à des témoignages qui nous plongent avec pudeur et délicatesse au cœur d'un drame de société. Dans notre magazine consacré à la vitalité de l'Église, Mathieu Chauvin, réalisateur, continue de nous présenter aujourd'hui, deuxième partie, ce film placé au centre d'un affrontement opposant la culture de vie et la culture de mort. Un documentaire destiné à tous les publics, comportant autant d'informations que de raisons d'espérer, et dont le titre résume en somme l'essentiel de son message « La vie est en nous ». Sur les ondes de Radio Espérance, nous retrouvons Mathieu Chauvin. Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle aux auditeurs de Radio Espérance qui ne nous auraient pas suivis la dernière fois que vous êtes père de famille, vous y tenez beaucoup. Quand on parle d'un sujet touchant à la vie, vous aimez bien dire que vous êtes père de famille, histoire de dire que vous connaissez le sujet.
Oui, on a une vraie implication.
Voilà. Et vous êtes aussi réalisateur de films, et notamment réalisateur de ce film intitulé « La vie est en nous ». Est-ce que je peux vous demander de nous représenter un petit peu ce documentaire avant d'approfondir de nouvelles questions qu'on n'a pas eu le temps d'aborder la dernière fois ? « La vie est en nous », qu'est-ce que ça veut dire vraiment ?
Alors « La vie est en nous », on l'a écrit avec un grand V. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que c'est sur nous que Dieu compte pour transmettre la vie humaine. Elle nous a été donnée par nos parents et on va la transmettre à nos enfants. Donc là, on parle de la vie biologique. Mais la vie est en nous, c'est aussi la vie du Christ, puisqu'on a une mission sur cette terre et on a cette dimension spirituelle qui nous destine à la vie éternelle. Et ce sont ces deux vies-là qui sont en nous, qu'on doit accueillir, qu'on doit protéger. C'est ça l'histoire du DVD. L'avortement est un drame qui touche toute la société, et qui touche la société, bien sûr, dans des dimensions matérielles, mais qui touche l'âme des gens et qui détruit l'âme des gens. Une bonne partie du mal-être et des difficultés que connaissent les sociétés occidentales, et la France en particulier, ont une partie de leurs origines dans le drame de l'avortement. C'est un phénomène de masse, et il pèse sur la société française d'une façon qu'on a beaucoup de peine à identifier, parce que c'est une question taboue. Mais l'avortement est un boulet énorme qu'on traîne. Il faut savoir que la moitié des Français seront concernés dans leur vie personnellement par l'avortement. Donc souvent quand on pose la question aux gens, à votre avis, l'avortement ça concerne combien de personnes? Les gens vous disent, oh bon, 5%, 10%. Non, l'avortement concerne 50% des Français.
J'ai commencé à parler du film en employant le mot de démonstration. Il y a effectivement une forme de démonstration dans ce film à différents niveaux. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ?
C'est un film très généraliste, on l'a conçu comme une émission de télé. On savait qu'on avait peu de chances qu'il soit passé à la télé, mais on voulait vraiment qu'il soit dans ce format-là, c'est-à-dire que ce soit quelque chose qu'on puisse voir en famille. Moi j'ai envie de dire à partir de 11-12 ans, tous les enfants peuvent le regarder. Qu'on puisse regarder en famille et donc qu'il soit bienveillant et qui dans lequel il n'y ait rien qui soit terrifiant, moche ou autre. Et on part de la dimension scientifique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un enfant, comment est-ce qu'il est conçu, comment est-ce qu'il se développe, quelles sont les grandes étapes. Ensuite, on va s'intéresser à la dimension humaine, à l'épaisseur humaine, c'est-à-dire comment les gens vivent la grossesse, comment est-ce qu'ils abordent la question de l'avortement, puisque on se centre quand même là-dessus. On fait témoigner des femmes, des hommes. Et ça, je suis très fier parce que il est très rare que les hommes aient la parole sur ces questions-là. Donc, on fait parler des femmes, des hommes, des médecins, des psychothérapeutes. Et puis, on conclut et on ouvre le DVD avec la dimension spirituelle. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'avortement est une question qui touche à l'âme et qui attaque l'âme. Donc, il était absolument indispensable que cette dimension spirituelle soit portée, et elle est portée à travers trois témoins, un pasteur et deux prêtres.
Dans ces différents niveaux de démonstration, on a l'impression que chacun peut en prendre un petit peu comme il veut, suivant son expérience, l'avancement de sa maturité personnelle, morale. Est-ce que je me trompe? Est-ce que il y a, j'allais dire, des démonstrations à la carte, ou est-ce qu'il y a une progression, une complémentarité entre ces différents niveaux de compréhension du phénomène?
Ça me fait très plaisir quand vous dites que chacun peut prendre là où il peut aller se servir et prendre les choses au niveau où il se trouve. Parce que si vous l'avez perçu comme tel, j'en suis heureux, c'est pour moi le signe des choses bien faites. C'est-à-dire qu'elles sont suffisamment simples et claires pour que des gens qui abordent ces questions-là pour la première fois, et en particulier les enfants, puissent y rentrer, et à la fois suffisamment riche et épaisse humainement pour que les gens qui les connaissent bien y trouvent leur compte aussi. Donc si on a réussi ça, je suis vraiment très content. Après oui, ben voilà, l'avortement concerne tout le monde, donc il faut que tout le monde y trouve son compte. Enfin, trouve dans le film matière à se nourrir et matière à grandir. On a vraiment voulu aimer tout le monde avec ce film, et que tout le monde reparte plus fort en l'ayant vu. Plus fort et armé surtout. Parce que c'est là que le fait d'être père de famille, ça compte. Hein. J'ai 5 filles, j'ai pas mal de sœurs, j'ai beaucoup de cousines et beaucoup d'amis. En plus, bon. Et toutes ces femmes, puisqu'elles sont, même si je dis tout le temps qu'elles sont pas les seules protagonistes de cette histoire, elles sont les deuxièmes victimes, puisque l'enfant, lui, évidemment, dans la mesure où il laisse sa peau, c'est vraiment la première victime. Les femmes sont les deuxièmes victimes, en nombre et en intensité. J'avais envie de les aider, et toutes, que ce soit les jeunes filles pour qui ces questions sont encore un peu lointaines, ou des femmes de 50 ans qui portent ça comme un fardeau depuis 30 ans.
Et j'en veux aussi souligner la dimension miséricordieuse qui est présentée à travers le témoignage des hommes d'église. Vous parliez d'un pasteur, il y a aussi deux prêtres qui interviennent, vous l'avez dit. C'est du côté de la miséricorde que vous avez voulu montrer la position de l'église avant de montrer un quelconque jugement moral. Est-ce que c'était volontaire?
Oui. D'abord parce que la question morale, elle est claire pour tout le monde aujourd'hui. C'est un des phénomènes d'évolution qu'on a très bien noté. Tous les gens qui s'approchent un peu de ces questions-là, je pense, l'auront noté comme nous. C'est que pendant 20 ans, on a débattu de morale. C'était le bien contre le mal. L'avortement est-il un bien? L'avortement est-il un mal? Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est un mal, y compris les promoteurs de l'avortement légalisé, qui savent que c'est une catastrophe. On dit aujourd'hui, ils disent, c'est un moindre mal. Mais quand on dit c'est un moindre mal, c'est clairement qu'on l'a identifié comme un mal. Donc la question morale, elle est très intéressante, elle est importante, il ne faut pas l'abandonner. Mais c'est plus là-dessus qu'à mon avis, il faut faire porter l'effort principal. Par contre, quand on considère le nombre de gens qui ont été fracassés par des histoires d'avortement, il est devenu urgent, c'est un problème de survie de la société, de pouvoir les aider à panser leurs blessures. Et ça se fera pas sans miséricorde, c'est-à-dire qu'il faut les accueillir comme des gens qui ont souffert, et les femmes en particulier, mais aussi les hommes, mais aussi les enfants qui ont réchappé à l'avortement, mais aussi les grands-mères qui, parce qu'elles avaient avorté clandestinement il y a 50 ans, ont implicitement encouragé leur petite fille ou leur fille à le faire. Tous ces gens-là ont besoin d'être accueillis et d'être aidés pour panser leur plaie et retrouver la paix. Il faut arriver à se pacifier. C'est le grand enjeu aujourd'hui. C'est l'enjeu du prochain film.
En tout cas, on voit que les propos qui sont tenus sont destinés à un grand public, et même des gens qui ne sont pas forcément religieux, croyants, mais qui sont peut-être intéressés d'avoir le point de vue de la religion. On notera au passage que
enfin, je crois, j'ai pris des notes en écoutant et en regardant le film. Je pense pas que le mot culture de vie, culture de mort soit employé, comme s'il y avait déjà un jugement qui était porté sur le problème. C'est des points de vue qui sont donnés, des éclairages sur la question en fonction des positions, des expériences des uns et des autres.
Oui, ce qu'il y a, la dimension spirituelle, elle se place sur un autre. Si vous voulez, je pense que chacun son terrain, chacun son domaine. Il y a la dimension naturelle et elle est portée par le côté scientifique du film. Je le disais la dernière fois, on nous a jamais fait reproche d'avoir dit une seule bêtise dans ce film. C'est pas si mal quand on sait à quel point les gens sont pointilleux là-dessus. Donc là, il y a la dimension naturelle qui est pour partie scientifique, ensuite pour partie psychologique, donc c'est le vécu des gens. Et puis il y a la dimension surnaturelle. Et la dimension surnaturelle, elle doit permettre aux âmes de retrouver la paix. On n'imagine pas à quel point les gens sont brutalisés par cette question-là. Et donc, on n'est plus dans le jugement, on est dans l'accueil. Il y a un moment où il y a un moment pour le jugement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut porter un regard vrai sur ses actes. Sinon, il n'y a pas de reconstruction, il n'y a pas de paix possible. Tant que je refuse de voir que de casser la gueule à mon voisin, c'est pas une chose à faire, je pourrais pas avoir un regard vrai sur ma vie. Donc, il faut bien qu'à un moment, ils acceptent de considérer que l'avortement est un acte négatif qui est grave, qui a une vie qui a été supprimée et beaucoup de gens blessés. Mais ça c'est le temps du jugement et c'est l'instant qu'on fait souvent tout seul. Mais les hommes d'église sont pas là pour ça. Après ils sont là pour accueillir la volonté de renaître et pour donner le pardon de Dieu.
Une dimension à laquelle beaucoup seront certainement sensibles, c'est la dimension humaine, c'est la douleur des personnes. Je vous propose qu'on introduise cette dimension qu'on va développer après par une pause musicale dans laquelle il y a une tranche de vie qui nous est relatée et qui est tout à fait significative de ce qu'on peut entendre aussi dans le DVD. C'est un titre tiré de la Life Parade. Je vous laisse nous le présenter, Mathieu Chauvin.
Je suis très content qu'on passe cette chanson. Je pense qu'elle va dérouter un certain nombre des auditeurs de Radio Espérance parce que c'est peut-être pas un style musical que vous entendez souvent. Mais c'était le thème de la Life Parade de cette année. Elle a été écrite et elle est interprétée par un garçon qui s'appelle Émile Duport, qui est un jeune chanteur qui est vraiment plein de talent. Et elle illustre bien cette nécessité pour la culture de vie, de s'introduire et de pénétrer tous les aspects de la vie d'une société. Ce n'est pas un combat de sacristie, la culture de vie. C'est un combat qui se fait au cœur du monde, et donc par des films comme je l'ai fait moi, par des tas d'autres actions que mènent beaucoup de gens, beaucoup d'associations qui essayent de pénétrer tous les étages de la vie en société. Et puis, il y a la chanson, voilà, une chanson d'Émile Duport.
On se retrouve tout de suite après pour parler de ce qu'elle évoque.
Je pars en la 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 la. Je pars en la 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 la.
Amandine aurait dû être maman, mais tu n'y penses pas être mère à 17 ans. Lisez sa mère et son père et l'assistante sociale, les amis, les docteurs et le corps professoral. C'est pour lui donner courage. Je pars en live. Je pars en live. Je pars en live. Je pars en live.
Nous sommes toujours en compagnie de Mathieu Chauvin sur les ondes de Radio Espérance. Nous continuons à parler du film « La vie est en nous », mais pas simplement du film, on va aussi parler des projets qui vont faire suite à ce film. C'est un film, faudrait peut-être plutôt dire documentaire, Mathieu Chauvin, et surtout quand on pense aux témoignages qui sont dans ce film. Là, vous êtes allé à la recherche de personnes pour recueillir des témoignages, j'allais dire des tranches de vie, des étapes, des expériences douloureuses liées à l'avortement, mais aussi des expériences heureuses, puisqu'il y a une personne qui témoigne, qui a évité un avortement et qui en est très heureuse.
Bien sûr, elle est très heureuse. C'est une fille qui est pleine de courage. Elle s'appelle Fatih Bouhamdam. Et bon, son histoire est belle et elle donne confiance en l'avenir. Hein. Surtout que maintenant, depuis que le film est fini, il lui est arrivé plein de belles choses. C'est un des points forts du film, ce sont les témoignages, parce qu'ils sonnent très très juste. Et on a eu beaucoup beaucoup de chance, parce qu'on n'en a pas eu un de trop. Ça, c'est pour moi vraiment le doigt de la providence. Je n'ai pas eu à choisir. J'ai, entre parenthèses, été obligé de prendre tout le monde, tellement il est difficile de trouver des gens qui veulent parler de ces questions-là. L'avortement est sans doute un des sujets les plus difficiles à traiter. C'est vraiment le truc dont personne ne veut parler, dont personne ne veut entendre parler. Et donc, arriver à rencontrer des gens qui acceptent de livrer leur histoire, c'est très difficile et c'est l'enjeu du prochain film. On prépare en ce moment un nouveau documentaire dont le titre provisoire est « J'ai mal » et qui va traiter des syndromes post-abortifs, c'est-à-dire qu'on va développer un des thèmes qui était à peine effleuré dans le premier film. Et il faut qu'on trouve des témoignages, donc des témoignages de tous les gens qui ont été mêlés à des questions d'avortement et qui ont envie d'en parler, sachant que les témoignages les plus difficiles à trouver, ce sont les témoignages de médecins. Quand je dis témoignage de médecin, trouver déjà un médecin qui, dans sa vie, a été amené à pratiquer des avortements, pas de façon anecdotique, c'est-à-dire pas un ou deux avortements, parce qu'une fois vraiment il s'est trouvé planté et qu'il n'a pas su comment faire autrement, mais des gens qui en ont fait une activité régulière et qui aujourd'hui ont envie d'en parler, parler de ce qu'ils ont vécu pour qu'on comprenne. Donc si parmi les auditeurs, parmi vous là qui nous écoutez, il y a des gens qui ont été mêlés à des histoires d'avortement et qui ont envie de raconter leur histoire, je les encourage à nous contacter. Si vous êtes médecin, encore plus. Je comprends très bien à quel point c'est difficile. Hein. Le niveau de responsabilité qu'a un médecin dans une histoire comme ça se place très très différemment et je pense pas me tromper en disant beaucoup plus haut qu'une femme qui vient se faire avorter. Il est évident que c'est beaucoup plus difficile d'en parler, mais c'est aussi absolument indispensable. Donc j'espère qu'il y a parmi les auditeurs, ou parmi les amis des auditeurs, des gens qui voudront bien prendre leur téléphone et
me donner peut-être l'adresse tout de suite.
Alors le plus simple, c'est de nous appeler à l'adresse de l'association, de faire un petit mail. Donc je vous propose, si vous avez envie de prendre contact avec nous, ou si vous voulez nous donner un contact, notre adresse mail, c'est salut, S-A-L-U-T, donc salut sans S, @ la vie est en nous, tout est attaché, .net. Salut, @ la vie est en nous, .net. Voilà, vous nous faites un petit mail, ça arrive sur mon bureau, et on prendra contact.
Donc cette idée du film « J'ai mal » est dans la suite logique du premier film dont on a parlé, « La vie est en nous ». Je dirais au passage d'ailleurs que tous les arguments, plein de passages du film « La vie est en nous » mériteraient un développement comme le film « J'ai mal ». Mais vous soulignez aussi la difficulté de trouver des témoins. N'est-ce pas lié simplement au fait de la blessure qui est très personnelle, qui est très intime, qui est très difficile à exprimer, voire même à partager?
Honnêtement, je pense pas. C'est pas une façon de minimiser cette blessure, hein, pas du tout. Mais je pense que la difficulté, elle vient de ce que c'est une chose dont il est interdit de parler encore aujourd'hui. Il est très difficile, il y a quelques associations qui font beaucoup de travail, enfin qui font un travail formidable dans ce sens-là, justement, qui font de l'accueil de personnes blessées et qui les aident à se reconstruire. Mais d'une façon générale, on ne peut pas dire qu'on souffre après un avortement. Parce qu'il y a une espèce d'idée qui a été imposée, c'est que l'avortement, c'était pas grave, et qu'en tout cas, il n'y avait pas de quoi en faire un plat. Donc si c'est pas grave, il n'y a pas de raison d'avoir mal, ou ce mal n'est pas sérieux. Et du coup, on peut pas en parler, et personne ne veut l'écouter. Dans le monde de la santé, dans les gens qui devraient être en première ligne, à commencer par les gens qui font les avortements, ce n'est que très très récemment qu'ils acceptent l'idée qu'il puisse y avoir des suites psychologiques lourdes, mais de toute façon, ils sont pas armés et pas organisés pour faire l'accueil. Ils le feront peut-être un jour, Je ne sais pas si ce sont eux les mieux placés pour être sincères. Ça c'est un autre débat. Ils le feront peut-être un jour, mais aujourd'hui, quelqu'un qui a mal de l'avortement, il ne trouve pas facilement à parler. Donc, il n'en parle pas, et comme personne n'en parle, eh ben, on a pris l'habitude de planquer ça et de s'asseoir dessus en espérant que ça ne va pas remonter.
Est-ce qu'on peut préciser qui a mal dans les quelques minutes qui nous restent ? On a parlé de la mère, mais on a vu déjà dans La vie est en nous que le problème de l'avortement ne touche pas simplement que la mère, elle touche toute la famille et tous ceux qui participent plus ou moins à l'avortement. Est-ce qu'on peut un peu les lister pour que ceux qui pourraient éventuellement témoigner se reconnaissent dans votre appel ?
Alors oui, bien sûr. Je sais pas si c'est un bon titre, j'ai mal. Mais c'est un titre que j'ai choisi parce que moi j'ai mal. Donc la première personne qui a mal, c'est moi. J'ai mal de toute cette histoire qui est une vraie souffrance. Ensuite, tous les protagonistes de l'avortement ont mal. De façon diverse, à des degrés divers. Je pense que pour les médecins, c'est évident. Et tous les médecins qui ont trempé là-dedans le savent. Ils ont mal de façon différente, mais ils ont mal. Ensuite, il y a évidemment les femmes. Il y a les hommes qui ont été complètement dépossédés de cette partie de leur vie, puisque un homme aujourd'hui n'a pas son mot à dire quand une femme veut avorter. Il y a tous les enfants qui ont réchappé de l'avortement, tous ceux qu'on appelle aujourd'hui les survivants, soit parce qu'ils ont été dans une famille où on a directement avorté et donc ils ont compris à un moment ou un autre qu'ils ont un frère ou une sœur qui a disparu et que c'est pas passé loin d'eux, même si c'est pas objectivement vrai parce que leur vie à eux n'a pas été mise en question, eux ils comprennent qu'ils sont enfants comme celui qui a été avorté et que s'ils sont là c'est un coup de chance. Et puis il y a tout le monde, j'allais dire les gens qui passent le balai dans un centre d'orthogénie, j'imagine, ne sont pas heureux de passer le balai à cet endroit-là parce qu'ils savent ce qu'on y fait et ils savent qu'ici on fait un boulot de destruction, un boulot de mort. Donc tout le monde a mal. Nous, les témoignages qu'on cherche, ce sont des témoignages de femmes qui ont avorté, des témoignages d'hommes dont l'enfant a été avorté, des témoignages de gens qui ont insisté autour pour faire avorter leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs amis, leurs conjointes, et puis les enfants, tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont compris qu'ils n'étaient pas passés loin. Mais ceux-là, c'est ceux qui le savent le moins bien en général. Parce que c'est pour eux que c'est le plus difficile à dire. Et que ça se joue à un âge où on n'intellectualise pas les choses, donc on ne sait pas mettre les mots.
Vous n'avez pas l'impression d'une grosse bombe à retardement dans la société, dans la politique de demain ?
Si, c'est évident. C'est-à-dire que si on repart, je ne sais plus si c'est au début de cette émission ou de l'émission précédente qu'on disait que ça concerne 50% des gens en France, il est évident qu'il y a 25%, il y a la moitié de ces 50% qui souffrent de façon forte. Ça veut dire qu'il y a un quart des Français qui se promènent avec sur la patate un problème d'avortement non résolu, encombrant, et qui leur pourrit la vie. Peut-être pas au quotidien, mais enfin, qui leur pourrit la vie. Donc, ça explique c'est un des éléments qui fait qu'on a une société en ce moment qui est complètement détraquée. Où plein de choses qui devraient fonctionner ne fonctionnent pas. Où le lien intergénérationnel est très, très, très compliqué. Un mélange d'adulation et de mépris. Donc, oui. C'est une bombe à retardement, mais le jour, c'est le pari de Jemal, le jour où on aura réussi à faire comprendre aux gens qu'il y a un problème là, tout d'un coup plein de choses vont se débloquer. Moi je prends souvent comme exemple ce qui s'est produit avec l'alcoolisme. L'alcoolisme est un fléau qui est vieux comme le monde. Simplement depuis, je sais pas quelles sont les dates exactement, mais depuis 40 ans, il y a un certain nombre de gens qui ont décidé d'avoir une parole libre sur cette question. C'est-à-dire que, pendant longtemps, le gars qui picolait, c'était un poivreau sympa et ça faisait rigoler tout le monde et c'était ça. Et on considérait pas l'alcoolisme comme une tragédie. Aujourd'hui, on le fait. On prend en charge les gens, on les aide à se désintoxiquer et on ne rigole plus avec l'alcoolisme. Eh bien, un jour, on ne rigolera plus avec l'avortement et j'espère qu'on sera capable de prendre en charge les gens qui ont été des victimes de l'avortement pour les aider à se reconstruire.
C'est votre espérance, pour le mot de la fin.
C'est même pas une espérance, c'est une certitude. Attendez, on a gagné déjà. On a gagné. Donc, j'ai pas d'espérance. Je suis sûr de mon coup. De notre coup.
Mathieu Chauvin, merci beaucoup. Je rappelle simplement aux auditeurs de Radio Espérance que Ils peuvent, pour participer au projet de ce film « J'ai mal », apporter leur concours en donnant leur témoignage s'ils se sentent concernés. Je le rappelle, l'adresse internet salut@lavieestennous.org.
Est-ce que je peux ajouter une chose ?
Bien sûr.
Donc, on a besoin de vos témoignages parce que c'est la chair du film. Mais on a aussi besoin que vous nous aidiez à diffuser La vie est en nous, ce premier film. Vous pouvez le commander à l'adresse suivante, La vie est en nous, 641 La Grangette, 84 170 Monteux, France. Et si vous avez des relais financiers, n'hésitez pas, parce que J'ai mal va être une affaire financière lourde et on a besoin d'argent. Donc l'argent, on le trouvera parmi tous les gens qui ont envie que ce message loi soit porté, et il y en a sûrement parmi vous.
Mathieu Chauvin, merci beaucoup. J'espère une autre fois sur les ondes de Radio Espérance.
Très volontiers.
Vous venez d'entendre sur les ondes de Radio Espérance le réalisateur du film « La vie est en nous » dont les références sont disponibles sur votre site internet radio-espérance.com. Vous y trouverez également tous les éléments nécessaires pour apporter votre participation à la réalisation du film intitulé « J'ai mal », un documentaire sur les syndromes post-abortifs. La prochaine fois, nous retrouverons Mathieu Chauvin pour aborder, en matière de défense de la vie, les questions liées à l'évangélisation, à la place et au rôle de l'Église, autant dans son documentaire que dans le monde d'aujourd'hui. C'était Ecclésiavité, le magazine consacré à la vitalité de l'Église.